Nous allons démarrer aujourd'hui le Perek Aleph du Tanya. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, Bezrat Hashem. Ou Berachma V'yatsliach. Vous savez donc que le Tanya a plusieurs appellations. Le Tanya en lui-même, l'Ikuté Amarim, comme nous l'avons déjà dit dans l'introduction. Mais il a un autre nom dont on n'en avait pas encore parlé. C'est le Sefer Shel Benonim. Sefer Shel Benonim, c'est-à-dire le livre des moyens. Moyens, c'est-à-dire des individus moyens. Alors, on pourrait se prendre de dire, parlons des gens Rechaim, puisqu'il y a quand même plus d'intérêt à les récupérer. Parlons des tzadikim, pour donner l'exemple. Mais quel intérêt y a-t-il de positionner ce Sefer sur la notion, et vous verrez d'ailleurs dans tout le long de ce Sefer, de cette étude, nous parlons beaucoup de cette notion de Benoni. Benoni, le juif moyen, nous verrons que cette définition est très loin d'être véritable, car je vous souhaite, et nous nous souhaitons à tous, d'être les Benoni du Baal HaTanya. Alva et que nous faisions partie de cette catégorie de juifs. Eh bien, sachez une chose, mes chers amis, le Benoni, c'est Milachon Binyan. C'est les mêmes racines que le mot Binyan, c'est-à-dire la construction. C'est celui qui se construit pas à pas. C'est celui qui sait attendre. C'est celui qui prend le temps de travailler et ne croit pas à la baguette magique. Dans ce monde aujourd'hui, avec Internet, avec tous ces boutons, ces ordinateurs, on a l'impression que tout doit sortir de manière rapide et automatique. Si on appuie sur un bouton, on est livré par Codissimo directement d'Internet à la maison. Le Benoni, c'est ça. C'est celui qui sait attendre. C'est celui qui se construit pas à pas. Daf achar daf, page après page, il lit. La connaissance de la Torah ne vient pas du jour au lendemain. Ce sont des années de travail, mais pas seulement d'études. De pratique. Jean s'imagine qu'en étudiant et en terminant le chasse de Guémara, on peut atteindre une mala. C'est faux, absolument faux. Cela ne suffit pas. Il faut continuer, il faut persévérer et mettre tout ça en application. J'avais entendu une fois un chiour d'un rav en Eretz Israël qui disait que la véritable solution d'avancer, parce que les gens apprennent, ils restent les mêmes. On reste toujours les mêmes. On ne fait pas partie de ces gens qui s'appellent des bénonymes, qui se construisent en permanence et qui évolue en permanence. Non, on est ou racha ou tzadik. Tzadik, c'est celui qui a atteint l'apogée, il ne bouge plus. Le racha, c'est celui qui a tout à faire, donc il a tellement de travail à faire qu'il décourage et qu'il reste le même. À cela, on leur dit, la solution pour votre dynamisme, pour pouvoir avancer dans votre Torah, c'est après chaque shiur, après chaque enseignement de Torah, se poser la question et résumer le shiur en trois mots qui soient des mots qui permettent d'avancer de manière dynamique. Qu'est-ce que j'ai appris de ce cours? En quoi je peux avancer? Quels sont les mots-clés du cours que je puisse appliquer au minimum 24 heures? Voilà comment un Benoni peut avancer. Sur ces paroles, nous allons démarrer le Sefer HaTanya. Tanya, Besof Perek Gimel de Nida. Il nous a été enseigné à la fin du Perek Shlishi de la Masechet Nida. Masbi'im Oto. J'ai fait exprès de faire l'erreur, parce que vous verrez que la connotation est dans les deux sens. Nous parlons dans cette Gemara d'un enfant qui naît. Avant la naissance, la Neshama qui se trouve dans le Kissé à Kavod subit des préparatifs. Et surtout, va traverser des nappes et des nappes de monde spirituel, s'en imprégnant au fur et à mesure pour atteindre ce monde terrestre ici-bas. Avant qu'elle ne subisse cette descente, nous dit la Gemara, Majvi Imoto, on l'a fait jurer, Tehi tzadik, ve'al tehi racha, sois tzadik et ne sois pas racha, ve'afilu kol ha'olam kulo, et même si tout le monde qui t'entoure ou qui te connaisse, omrim lecha tzadikata, te disent que tu es considéré comme un tzadik, à nos yeux, haya benecha keracha. Sois à tes yeux comme un rachat. Voilà, sur cette Gemara va démarrer l'étude du Tanya. Je reviens sur la naissance du Ben Israël. La Neshama, suite à cette suite à ce serment que l'on effectue, va descendre de monde en monde, va traverser différents mondes, pendant une période, un temps qui n'est pas le nôtre, mais qui est aussi le nôtre, puisque c'est un temps de 9 mois, de la procréation jusqu'au moment de la naissance, elle va traverser différents mondes. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a créé des milliers et des milliers de mondes. Mais ce que le Harizal nous a transmis, c'est qu'on a subdivisé tous ces mondes, en tout cas les plus proches de ceux que l'on connaît, qui nous ont été dévoilés, en 4 mondes différents. Le monde Atzilut, dans lequel réside le Or Ein Sof, c'est-à-dire la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a le Olam HaBriya, le Olam HaYetzira et le Olam HaAsiya dans lequel nous vivons. Nous vivons dans le bas du monde HaAsiya. Eh bien, dans chaque monde, il y a des sphirotes, 10 sphirotes distinctes. Et chaque sphira se subdivise en différentes sphirotes, ainsi de suite. On pourrait arriver comme ça à des milliers de divisions ou de subdivisions. La Neshama va devoir donc traverser l'endroit où elle se trouve jusqu'au monde ici-bas. Et en traversant, elle va s'imprégner, elle va se vêtir, comme le dit le Harizal dans le Etzraïm, elle va s'attarder dans certains mondes, puis avancer plus rapidement dans d'autres, comme un mikvé que la Neshama va faire dans différents environnements. Évidemment, ces passages, ces arrêts, comme les Bnei Israël ont traversé le désert et ont passé 42 étapes, 42 campements dans le désert pour arriver de l'Égypte jusqu'à Eretz Israël, la Neshama va faire à peu près la même chose. Elle va s'attarder dans des endroits qui sont spirituels, qui ne sont pas physiques, mais plutôt métaphysiques. Et ces endroits spirituels vont lui donner un caractère, vont la lancer sur un futur, vont lui donner un mazal. Et justement, tout le travail du Ben Israël pour pouvoir se sortir, c'est de remonter durant sa vie corporelle au-delà du mazal. Puisqu'on dit En mazal Israël, il n'y a pas de mazal pour le Ham Israël. C'est justement d'essayer de remonter la pente, même si on est encore habillé dans ce corps. Mais grâce à la Torah, grâce aux actions que l'on mène, pouvoir surmonter tous ces chemins que la Neshama a de manière initiale traversés pour pouvoir atteindre le summum, c'est-à-dire l'idéal pour lequel la Neshama a juré à ce moment-là, juste avant de descendre. Et même, nous disent Chachamim, de surdoser, d'être au-dessus du plan d'Akadosh Baruch Hu. Le Tzemar Tzedek nous apprend également sur cette Gemara de Mashbi, Moto Tei Tzadik Ve'al Tei Rasha. Nous avons traduit le mot Mashbi'im, qui veut dire jurer. Mais on peut le traduire autrement. Mashbi'im, en faisant une erreur sur le. Au lieu de faire un shin, avec un shin, on le lit avec un sin. Mashbi'im, ça a une autre explication. Masbim, la chôme savéa, ça veut dire rassasier. On rassasie la Neshama avant de la lancer dans le chemin, un long chemin ou de traverser pour arriver dans un endroit très ténébreux par rapport à la lumière dans lequel elle réside de manière initiale. Eh bien, cette Neshama va d'abord se rassasier. En effet, en jurant, en faisant un serment, on aide une personne. On aide la personne qui est en train de jurer à se donner la force de se maintenir. Justement, en mettant sa voix, sa parole en avant et en lui faisant entendre qu'est-ce qu'il a pris comme décision. Et en mettant sa main, évidemment, sur un objet kadosh. Vous avez remarqué qu'on utilise toujours un Sefer Torah ou des téfilines pour pouvoir le faire. Cette voix. Ce n'est pas pour rien. En effet, il faut toujours accorder l'action de l'homme à Akadosh Baruch Hu qui est l'origine. Seulement, Akadosh Baruch Hu est Ein Sofi. Il est illimité. L'homme, lui, réside dans une petitesse très limitée. Il faut un moyen, il faut un intermédiaire pour pouvoir lancer la communication entre les deux, qui est directe, certes, mais on a besoin d'un starter, on a besoin de quelque chose qui puisse mettre en communication le monde de l'infini avec le monde du fini. Pour cela, comme je beaucoup a donné, 2000 ans avant la création du monde, la Torah. Cette Torah qui est un shem d'Akadosh Baruch Hu, les 600 000 otiyot à Torah constituent le nom de Dieu. Donc, ça a une dimension infinie. Mais d'un autre côté, quand on la traduit en découpant les mots d'une certaine manière, en découpant les psukim, les versets d'une autre manière, on arrive à avoir des enseignements matériels et limités. Voilà l'intermédiaire avec lequel on va pouvoir atteindre le divin, la Torah, les téphilines, qui sont des objets de sainteté. C'est pour ça que l'on met les téphilines comme objets souvent utilisés pour faire une chevoie. Pourquoi? Parce que les téphilines vont avoir un plus par rapport à tout le reste, c'est qu'ils contiennent deux parties. La partie haute et la partie basse. La partie haute concerne les téphilines Shel Rosh, qui concerne l'intellect de l'homme. La partie un petit peu divine, un petit peu métaphysique, qu'on ne voit pas. Et puis, les tefillines shel yad, que l'on met dans le bras, qui eux vont avoir une connotation émotive, le cœur. Pour pouvoir justement faire la jonction entre le cœur et l'intellect, les émotions et l'intellect de l'homme au moment où il prend une décision, il est primordial de les connecter. Car le cœur et l'intellect sont souvent dissociés et c'est ce qui fait le drame de notre vie. Que ça soit une tefila où on est complètement déconnecté, le cœur est ailleurs et l'intellect est dans la tefila ou vice-versa. Ou bien la personne en elle-même a une devanture émotive mais est éteinte au niveau intellectuel et vice-versa. On a besoin de remettre en connexion, de faire un zivoug, une communication entre le cœur et le sehel. Pour cela, masbi'im ou bien masbi'im, on rassasie ou on fait jurer la neshama. On la fait jurer, c'est-à-dire qu'on prend ses éléments émotifs, on prend ses éléments intellectuels. Il faudra encore savoir qu'est-ce que c'est des éléments émotifs et intellectuels pour une neshama. Mais tel que nous on le ressent ici-bas, on peut imaginer pour une neshama ce que cela veut dire, de loin. Et on la fait jurer sur justement le moyen de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Donc cette joie, à partir du moment où elle est faite sur quelque chose de milé des Toraïta, sur quelque chose qui est Kadosh, quelque chose qui est de notre Torah, à ce moment-là, elle prend toute sa vigueur, car elle inclut l'intellect et l'émotion de l'homme. Et l'engage, pas dans le sens de la contrainte, de l'emprisonner, mais vient l'aider en te disant, tu te rappelles, là tu es devant ton bureau, tu es en train de faire du commerce, et qu'est-ce que tu as juré là-haut? Sois un sadique. Ne sois pas un rachat. Regarde l'intérêt de ta neshama et ne regarde pas l'intérêt de ton gouffre, car ce monde est obscur. Là où il y avait beaucoup de lumière, et là tu as pu jurer, et là tu te mets face à ton client. Tu dois respecter ton client dans des valeurs spirituelles et pas seulement sur des valeurs matérielles. Tehi tzadik ve'al tehi racha. Vitzarich le'avin. La suite dans le texte. De'atnan. Il va falloir comprendre qu'il a été enseigné dans une Mishnah, Maseret Avot Perek Bet, Mishnah Yud Gimel. La Manu, nous avons appris là-bas, Ve'altei Racha Bifniat Smecha, ne te considère pas comme Racha devant toi. Alors là, on a une contradiction. D'un côté, on nous dit, même si tout le monde te considère comme étant un tzaddik, considère-toi, toi, comme un Racha. Et de l'autre, le Pirkei Avot vient nous dire, attention, ne te prends pas pour un rachat, car cette situation peut être un couteau à deux tranchants. La première, quelqu'un à qui on dit, sois un rachat, considère-toi comme un rachat, quel engouement va-t-il avoir? Je suis en train de prier, je suis en train de mettre tefillin, j'ai un engouement de mettre les tefillin, et puis dans ma tête je me dis, mais attends, ne joue pas. À Zoro, tu n'es qu'un rachat. La Torah me demande de me considérer comme un rachat. Comment voulez-vous qu'on évolue comme ça? On a besoin d'une simra pour activer la Torah, On a besoin de servir Dieu avec les émotions, comme on vient de le dire, avec l'amour et la crainte. Si on nous rabat le caquet systématiquement, à chaque fois qu'on lève la tête vers Akadosh Baruch en disant Akadosh Baruch, je veux m'envoler vers toi, et à ce moment on te dit hey, calme-toi, redescends sur terre, tu es un rachat. Alors, comment voulez-vous? C'est une situation très contraignante. C'est ce que nous dit le Tanya juste après. Vegami imiye be'enav kirasha. Si la personne se considère, se reflète comme un rachat, ira levavo. Son cœur va devenir mauvais. Veyehet atzav. Il deviendra triste. Velo yochala vodet Hashem besimcha uftov levav. Il ne pourra pas servir Dieu avec joie et avec bon cœur. Ah, vous pourriez me dire, mais j'ai conceptualisé une vie où le fait de qu'on me dise que je suis un rachat ne m'empêche pas, ne m'inhibe pas au service divin. Et alors, si je suis rachat et que j'en suis touché, c'est pas un peu de la gava, c'est pas un petit peu trop d'honneur, il faut accepter son état. Vis-à-vis de grandes tzadikim, c'est vrai qu'on n'est que des réchaïm. Alors, pourquoi ne pas accepter cette situation et tout simplement servir Dieu comme un rachat et pas comme un tzadik? Ça existe, il y a des réchaïm aussi qui servent Dieu. Et c'est peut-être encore plus élogiant d'être considéré comme un rachat et de servir malgré tout, avec toute la difficulté de Esav, le rachat, servir à Kadosh Baruch Hu. Combien d'éloges on a fait sur Esav dans la mitzvah de Kibbud Avaim? Combien d'éloges la Torah et les Mefarshim et Rashi et les Tosfot et tous ont parlé de Esav comme étant le roi du Kibbud Avaim? N'est-ce pas un Kiddush Hashem? Je vous dirai même plus. C'est marqué plus loin dans le Tanya que lorsque l'on récite le Yotzer, la Bracha Rishona, avant de faire Kriyat Shema, il y a là-bas un passage où on lit Kulam kedoshim, kulam potrim, et puis bigdusha of taura. On parle là-bas des malachim. Les malachim, les anges qui se trouvent en haut de nos têtes et qui sont eux aussi en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Et ils attendent que l'on dise Kadosh, 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 Hashem Tevaot Melo Kolar et Kevodo, pour pouvoir eux aussi démarrer leur tefila, car eux aussi sont en train de prier. Et là-bas, le Tanya nous dit, sachez une chose, parmi les malachim, malach Michael, malach Gabriel, tous les camps de malachim qui se trouvent dans le Kissé Kavod, le trône divin, il y a aussi le trône du Yetzerara qui est un ange lui aussi, le malach Hamavet. Et bien figurez-vous qu'à ce moment-là, Kulam, tous les malachim, y compris le Yetzerara, est en train de crier comme un tzadik, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzevakot. Il est capable, lui, le rachat, de prier à Kadosh Baruch Hu, pas comme un tzadik, comme un gaon, comme un malach, parce que c'est un malach. Et malgré tout, il n'est pas offensé de cette chose-là. Donc, on pourrait nous aussi apprendre du malach ha-ha-ha-ra, l'ange du mal, et prier à Kadosh Baruch Hu en se considérant comme un rachat. Réponse, non. Car nous sommes des êtres humains. Et il nous pourrait avoir ce qu'on appelle la kaloutroche. Regardez ce que dit le Tanya. Ve'im lo yara levavo klal mise, yachol avo l'idée kaloutroche. S'il n'est pas touché au moment où il est en train de prier, par le fait qu'il est en train de se considérer comme un rachat, alors son cœur deviendra léger. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, et le caractère humain est comme ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il se prendra plus au sérieux. Et petit à petit, il dévalera la pente et la chute dans la Avodat Hashem et dans la considération de la Torah. En effet, à quoi sert d'être marmire, d'être scrupuleux dans la Torah, si de toutes les manières on est considéré comme rachat? Cette idée va au fur et à mesure ronger l'esprit de l'homme et finir par le faire chuter. Donc on doit tenir compte également de la nature humaine que Dieu a mis dans l'homme. Cette nature, elle est comme ça. Elle part du haut vers le bas. Tout ce qui peut engendre une attraction vers le bas, l'homme plonge. C'est comme l'électricité qui prend le chemin le plus court. L'homme, il est comme ça. Dès qu'on lui ouvre une porte, il s'engouffre et c'est une nature, que ce soit un tzadik ou un rachat, ça restera la même chose. Donc attention, attention, la question est très forte. Faut-il se considérer comme un rachat et dans ce cas-là, comment? Malgré qu'on risque de sombrer, comme on vient d'expliquer, et avec la difficulté de servir à Kadosh Baruch Hu avec joie, puisqu'on est, si on est considéré comme rachat. Et je terminerai sur cette question, on verra la réponse. La réponse, ça sera toute la première partie du livre, mais disons qu'on continuera le prochain épisode, Bezrat Hashem. Mais je vais vous laisser sur une idée, une image qu'un ami à moi avait vécue. Et je peux vous dire que le sentiment que cet homme a eu à ce moment-là était très, très, très dur et réel. Il a senti qu'est-ce que ça veut dire l'amour d'Hachem à ce moment-là. En effet, il s'agissait d'un Bahur Yeshiva. Le jour de Kippour, vous savez qu'il est très, très grave de subir une perte séminale. La nuit de Kippour, on dit que dans la Gemara, que ces personnes-là sont... C'est un très mauvais présage et certains chachamim disent que ces gens-là ne finissent pas leur année chas v'shalom. Eh bien, ce Bahur Yeshiva qui avait fait tant d'efforts pendant le mois d'Eloul, tous les jours, il était fatigué, il était vraiment au bout des rotules, malheureusement a eu cette pollution nocturne le soir de Yom Kippour. Le lendemain de Kippour, il regardait la choule. Il me racontait, il regardait la choule, la synagogue. Il regardait le Sefer Torah, les gens se préparaient à Soukhot, mais il n'avait pas du tout le moral, il n'avait pas du tout l'engouement, il avait perdu complètement. Il regardait tout ça et il me racontait, il me dit, mais Dieu ne veut pas de mon service. Je me suis tant donné, j'ai tant donné à Kadosh Baruch Hu, il m'a jeté à la figure cette situation et c'est plus que l'idée de ce qui est marqué dans la Gemara. Il s'en foutait complètement de ce que la Gemara disait, c'était plutôt... comme si Kadosh Baruch Hu l'avait giflé, l'avait rejeté avec tout ce qui s'était donné comme fatigue. J'ai senti en lui une tristesse et un sentiment, il était très 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 bas, très déprimé de cette situation. Puis il s'est repris, on l'a remis en position, en bonne posture, et avec soukhot, etc. Et finalement il a décidé d'encore plus s'accrocher. On l'a persuadé que c'était sûr que c'était une tarboula du Yetzer, c'est-à-dire... une épreuve et un piège du Yetzer Hara pour le déconcentrer justement de ses efforts qu'il a fait pendant les Aseret Yemei Teshuva, juste avant Yom Kippour. Et Baruch Hashem, cette personne a passé à travers l'année sans aucun problème et il s'est renforcé de cette situation. Tout ça pour vous dire qu'il est très difficile de servir Dieu en se sentant considéré par Hashem comme un rachat. Donc la question reste et nous tenterons de continuer à analyser cette situation le prochain cours.